En Australie, les droits religieux sont protégés quelle que soit la réforme sur le mariage pour tous. Les coupures de courant et évacuations dans les îles du Caraïbe à l'approche de l'ouragan Maria. Et réforme de l'ONU, au menu des discussions lors de la première intervention de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'ONU. Le trésorier fédéral Scott Morrison a tenu à rassurer les opposants au mariage pour tous sur base des considérations religieuses en soulignant que leurs droits seront protégés lors d'une éventuelle réforme de la loi. Beaucoup d'opposants au mariage pour tous appellent à voter contre en arguant qu'une éventuelle réforme pourrait enfreindre à leurs droits. Scott Morrison, qui lui-même est opposé à la réforme, souligne qu'il fera tout pour que les libertés religieuses soient protégées, quelle que soit la réforme proposée.
Religious freedoms, the freedom of religion more generally, is something I feel very strongly about, and it's one of the reasons I've been fairly active on this issue in the past. And if the survey would return a yes, well, any bill that would then come forward. The Prime Minister's made this point. He would be working very hard to ensure that religious freedoms were protected, and I can assure Australians that this would be on the top of my list for that particular bill.
Et l'Australie a défendu son droit de mener de manœuvres conjointes en mer de Chine au moment où des navires de la marine australienne se dirigent dans cette région contestée. 6 navires de guerre australiens font partie de ce déploiement dans la région Indo-Pacifique. Et selon Julie Bishop, la ministre australienne des Affaires étrangères, ces navires participeront à des exercices dans la région et feront des escales de courtoisie dans différents ports régionaux. S'adressant à Sky News, Madame Bishop a déclaré qu'elle ne s'attend pas à ce que la question soit soulevée lors de sa mission actuelle à l'ONU. Le porte-parole de l'opposition en matière de défense, Richard Marles, a déclaré quant à lui à Sky News que l'Australie devrait agir dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
As China does, and as in fact China did recently when Australia was engaging with the US in Exercise Talisman Sabre, and there was a Chinese naval vessel not far from those exercises, which was within its rights to be there. So we need to be exercising our rights to the fullest extent as they exist within the South China Sea, and that's whatever this Navy exercise is intended to do, it should do with that in mind.
Et le trésorier Scott Morrison souligne qu'il a expliqué aux autorités chinoises qu'il leur est interdit d'acquérir certains atouts australiens. Cette déclaration est faite en marge de la confusion suscitée l'année dernière par le refus de vendre le réseau électrique de Nouvelle-Galles du Sud à des investisseurs de Chine et de Hong Kong. Scott Morrison a déclaré sur Sky News que lors de ses entretiens avec les autorités chinoises, il leur a précisé que l'Australie se réserve toujours le droit de refuser certaines transactions.
I think it was good to be able to reinforce the point that there was some rather specific and unique aspects of this particular asset, which obviously on that occasion meant there was no way the Australian government could agree to it, and we certainly did not.
Et la Martinique a été placée en état d'alerte violette, le niveau maximum, alors que l'ouragan Maria arrive sur Basse-Terre. L'électricité a été coupée pour 33 000 foyers et la population est appelée à se mettre à l'abri. Et Maria, qui ne cesse de se renforcer, est désormais classée en catégorie 5, qui est la catégorie la plus dangereuse, se soulevant un souffle estimé à plus de 250 km par heure. La Guadeloupe est elle aussi passée au niveau d'alerte maximale violette et le préfet a ordonné l'évacuation des zones à risque. 110 militaires de la protection civile sont arrivés en renfort sur l'île et Maria devrait également passer à une centaine de kilomètres au sud de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, déjà ravagés il y a une dizaine de jours par l'ouragan Irma. Les deux îles sont déjà en alerte rouge cyclonique et les autorités françaises se préparent à l'hypothèse la plus pessimiste. Et qui sont les tueurs de Beni? Eh bien, c'est une question récurrente en République démocratique du Congo. Et dans ces territoires du Nord Kivu, entre 2004 et 2016, des massacres de masse y ont été perpétrés contre des civils, faisant au moins 800 morts dans les villes comme dans les campagnes. Le gouvernement congolais et l'ONU ont souvent répété que ces massacres avait été perpétrée par les ADF, des rebelles islamistes ougandais réfugiés au Congo depuis les années 90. Un nouveau rapport tente de faire la lumière sur ce drame. Écoutez un compte-rendu de Sonia Rollet pour RFI.
Pour le groupe d'études sur le Congo, il ne faut pas seulement s'intéresser aux années 2014-2016 pour comprendre le drame de Beni. Les tueries, bien que plus limitées, ont commencé dès 2013 dans un contexte bien particulier, celui de la rébellion du M23. Dans le territoire de Beni, selon ce rapport, des groupes armés auraient voulu créer une nouvelle rébellion. Au premier chef d'anciens leaders de la PC, la branche armée d'une des rébellions de l'Est durant la guerre, celle dirigée par Boussa Nyamwisi. Mais le GIEC dit ne pas avoir pu lier l'ex-ministre des Affaires étrangères et opposant aux tueurs de Beni. Les ADF, eux, ont bien participé pour des raisons de survie, comme des chefs locaux le plus souvent issus de minorités qui s'estimaient défavorisées, et le M23 en aurait juste profité pour recruter. La deuxième vague de massacres, la plus connue, 2014-2016, Kinshasa a repris le dessus à Beni à la faveur d'opérations militaires. Le groupe d'études sur le Congo identifie les mêmes types d'acteurs, ex-APC, ADF, chefs locaux, mais avec une nouvelle dynamique concurrentielle entre les réseaux implantés à Beni et des officiers de l'armée congolaise. Les premiers massacres en octobre 2014 seraient bien du fait des ADF et de leurs alliés, mais très vite avec l'arrivée du général Mundos à Beni, certains officiers de l'armée congolaise, dont ce général, auraient eux-mêmes infiltré et contrôlé certains de ces groupes et orchestré leurs propres tueries.
Direction à présent ONU, à New York, où le président Donald Trump a critiqué l'organisation mondiale, car il estime que cette organisation se caractérise par une lourdeur administrative. Et Donald Trump estime qu'en moins de la réformer, elle ne pourra se renforcer et devenir plus efficace. Plus de 120 pays ont été conviés à une réunion convoquée par les États-Unis après avoir entériné une déclaration politique en 10 points soutenant les efforts du secrétaire général Antonio Guterres visant une réforme profonde de l'ONU. Malgré ces critiques, il faut souligner que les derniers commentaires de Donald Trump marquent un assouplissement de sa position vis-à-vis de l'ONU, ce y compris sa position sur les efforts de réforme préconisés par M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Écoutons Donald Trump parlant de ces réformes qu'il préconise.
Je suis confiant que si nous travaillons ensemble en vue d'obtenir de vraies réformes courageuses, les Nations Unies vont devenir une force plus performante, plus forte, plus juste pour la paix et l'harmonie dans le monde.
Et on se souvient que le président Donald Trump avait déclaré que l'ONU est faible et incompétente et qu'en plus elle n'était pas amie des États-Unis et d'Israël. Répondant aux déclarations de Donald Trump, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a admis que son organisation devrait se réformer administrativement et mettre davantage l'accent sur les compétences humaines.
Pour servir les gens que nous appuyons et les gens qui nous appuient, nous devons être agiles et performants, flexibles et efficients. Et nous devons agir de cette façon pour être à la hauteur des valeurs de la Charte des Nations Unies.
Et en marge des événements donc à l'ONU, le président Donald Trump a prévenu que Washington pourrait se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien conclu avec 5 autres pays ainsi que l'Iran. Il apparaît que l'Agence internationale sur l'énergie nucléaire, AIEA, censée observer l'application de ces accords, n'est pas jugée assez rigoureuse par Washington. De son côté, Téhéran estime que la plus grande menace contre cet accord provient de l'hostilité des États-Unis. Donald Trump a lancé son avertissement dans un message que le secrétaire américain à l'énergie a livré lors de la réunion de l'agence onusienne qui se tient actuellement à Vienne. Les États-Unis estiment que l'Iran devrait ouvrir ses installations militaires aux inspecteurs de l'AIEA sans réserve si ses experts soupçonnent que des activités non autorisées se déroulent sur ces sites. Le chef du nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, a rejeté quant à lui les demandes américaines et implore à l'agence onusienne de ne pas succomber aux pressions américaines.
The American administration's overtly hostile attitude and actual foot-dragging policies and measures aimed at undermining the nuclear deal and blocking Iran's legitimate benefits from its full and unimpeded implementation are contrary to the letter and spirit of JCPOA.
Et la tentative du gouvernement britannique de paraître fort et uni lors des négociations du Brexit a échoué. Cette situation, donc, d'échec de l'administration britannique est apparue au moment où on a annoncé le transfert d'un haut responsable britannique quelques jours seulement avant un nouveau cycle de négociations de séparation avec l'Union européenne. À une semaine seulement de la reprise des pourparlers à Bruxelles, le gouvernement britannique a annoncé que Oliver Robbins, le plus haut fonctionnaire dans l'équipe de négociation sur le Brexit, avait quitté le département ministériel chargé de la séparation. Entre-temps, la première ministre Theresa May subit de fortes pressions de sanctionner Boris Johnson, son ministre des Affaires étrangères, qui fait montre d'insubordination en publiant son propre manifeste sur le Brexit. L'article de Johnson a suscité la réaction de la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, qui estime que Boris Johnson sabote l'action du gouvernement. Le concerné a, quant à lui, nié donc ce qu'on lui reproche et dit ne pas être impliqué dans une affaire de sapage du gouvernement conservateur.
The article, I hope, speaks for itself. And as for backseat driving, honestly, there's one driver in this car, to use Amber's metaphor, which he's quite often using, quite rightly, it's Theresa. What I'm trying to do look at the piece, what I'm trying to do is sketch out what I think is the incredibly exciting landscape of the destination ahead.
Retour en Australie où le gouvernement fédéral subit de fortes pressions pour instaurer une taxe sur le sucre. Les secteurs de la santé ainsi que les milieux communautaires estiment qu'une action urgente est nécessaire pour faire face à l'épidémie d'obésité. En effet, une coalition de 34 groupes d'action composée d'universitaires, de professionnels de la santé et du milieu communautaire ont publié un plan d'action. Un plan qu'ils espèrent sera adopté par le gouvernement dans la campagne de lutte contre l'obésité et les mauvaises habitudes alimentaires. Le plan en 8 points comprend une proposition de surtaxer de 20% les boissons sucrées, de restrictions sur la publicité de la malbouffe à la télévision et l'instauration d'un groupe d'action sur l'obésité, ainsi que des avertissements sur les emballages des aliments. Des mesures que le groupe souhaite voir appliquées en moins de 2 ans. Et la famille d'une fillette de Melbourne qui est décédée de la grippe déclare qu'elle ne croyait pas que la maladie allait emporter leur enfant. Dans une déclaration publiée sur la toile, Christian Bailey, le papa, souligne que sa fille, âgée de 8 ans, se sentait mal pendant quelques jours et souffrait, d'après ce qu'il croyait, d'un simple froid. Cependant, vendredi dernier, Rosie, du nom de la jeune fille, a souffert d'un arrêt cardiaque que 6 ambulanciers n'ont pas réussi à bloquer et elle est succombée donc de cet arrêt cardiaque. S'adressant à la ABC, le professeur Kanta Subarao, du Centre de recherche sur la grippe, attaché à l'Organisation mondiale de la santé, estime que pour éviter la propagation de la grippe, les gens devraient tout faire pour se faire vacciner s'ils ne l'ont déjà fait.
There are 4 strains of influenza that can cause epidemics, and one of those, that is the dominant strain this year, is known to cause much more severe illness. So, you know, it's called the influenza A H3N2.
Sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 67 centimes d'euros et 80 centimes de dollars US. Et un coup d'œil météo à travers donc les principales villes australiennes. Perth, 23 degrés. Adelaide, 16. Melbourne, 14. Hobart, 12. Canberra, 14. Wollongong, 20. Sydney, 23. Newcastle, 24. Brisbane, 29. Cairns, 26. Et Darwin, 34 degrés. Ceci termine ce journal. À présent, un rappel des titres. Les droits religieux seront protégés, quelle que soit la réforme sur le mariage pour tous en Australie. Et coupure de courant et évacuation dans les îles du Caraïbe à l'approche de l'ouragan Maria. Et réforme de l'ONU au menu des discussions, marge de la première intervention de Donald Trump à l'Assemblée générale de l'ONU. On fait une courte pause avant de passer à l'actualité sportive avec Christophe Mallet.